Deuxième partie, chapitre 1, poursuite des sombres. Ma fureur éveilla les hommes des eaux, et d'abord notre ami. J'allais vers lui comme la tempête vers les chênes, et dans un délirant désespoir, j'implorais son aide. Je lui montrais avec des gestes d'insensé la couche vide de Sabine. Un cercle d'hommes et de femmes se formait autour de moi dans la pâleur de l'aube, et les yeux d'escarboucle, les larges brunelles rigides me regardaient avec une évidente compassion. Les brumes se levaient au soleil. L'horizon, sauf vers l'Orient et l'Occident, devenait d'une clarté précise, et je pus voir, loin dans le nord, une tache imperceptiblement mouvante que je signalais à mon frère des eaux. Il fixa la direction dans sa tête, courut vers le lac et plongea. Je le vis dans les voiles cristallins, tout grossi et déformé par une ondulation légère, la tête tournée vers le nord. Je compris que ces vastes prunelles cueillaient sous l'eau les lents et serres lointains rayons, et mon impatience se compliquait d'une sensation de prodige. Il reparut enfin. Son cri batracien annonça la nouvelle à ses frères, et il disparut vers le nord avec une foudroyante rapidité. Une centaine de ses compagnons, armés de harpons hélicoïdaux, se jetèrent dans son sillage. Le même radeau où naguère encore m'installait avec Sabine dans nos flâneries sur le lac fut aménagé. J'y pris place, muni de ma carabine et de mon couteau, et bientôt je fus entraîné avec une vitesse surprenante, mais pas plus considérable que celle dont l'autre radeau là-bas filait lui aussi, emportant dans l'épouvante ma fiancée. Toutefois, à cette vitesse, le sommeil du vent et de l'eau apaisèrent un peu mon angoisse. J'examinai la situation avec plus de sang-froid. De tout ce que j'avais vu, tant chez les hommes des eaux noires que chez les autres, j'osais conclure avec assez d'assurance que le jeune ravisseur n'userait pas d'abord de sa force. N'avais-je pas assisté à leurs patientes aventures, à leurs longs circuits amoureux, à tout ce que déployaient de ruses gracieuses, de douces implorations, l'amant pour obtenir les faveurs de son élu? Et quelle probabilité que le chef noir en usât autrement avec Sabine ? La singularité même de l'aventure ne devait-elle pas exciter les tendances de la race qui allait plutôt au charme qu'à la violence? Puis les mœurs ne s'enfreignent pas aisément chez les peuplades primitives. En supposant que sa tribu lui eût octroyé Sabine, encore le jeune fief serait-il probablement obligé de se soumettre aux coutumes. Or nous n'étions pas à la lune nouvelle, unique période du choix. Près de 2 semaines nous en séparaient. Chapitre 2. Le combat sous lacustre. Si nous gagnions sur le radeau poursuivi, c'est ce que je n'aurais pu dire. Je le voyais toujours comme un point noir sur l'horizon, et il était à craindre qu'il ne disparût à la première apparence de brume. Cela arriva vers midi. Le ciel n'étant pas tout à fait libre, parcouru de larges nues, les vapeurs furent condensées. Toujours entraîné sans que la vitesse se ralentît, peu à peu je glissais à la rêverie, à la vaine imagination de moyens fantastiques pour reconquérir ma fiancée, quand le cri batracien des hommes des eaux m'éveilla. Je relevai la tête. Le radeau était à 300 mètres d'une île basse où des peupliers montaient dans un fourmillement lumineux de leurs feuilles. Entre les troncs espacés, je revoyais le radeau, toujours comme une tache noire, mais plus proche, puisqu'il se montrait malgré la brume. Mon regard, attiré d'abord sur ce point, s'en détourna bientôt au clapotement d'appel de mon équipe. Tout s'indiquait au-delà de l'île, sur la droite, un massif de grands roseaux autour duquel l'eau s'agitait avec fureur. Le radeau s'immobilisa. Je tenais mon arme chargée de ses 2 coups et j'attendais l'attaque. Le bouillonnement autour du massif des roseaux se déplaçait, se dirigeait vers nous. Puis, soudain, un calme absolu. Les eaux limpides montrèrent leur fond de hautes plantes comme une forêt submergée, et sur les arabesques des tiges, les guipures de la feuille partout descendaient la divine lumière d'iris autour des ombres en globules de mercure sur les bulles d'air des feuilles. La vase avait une couleur indécise entre le plomb terni de la glaise et l'or du sable. Aux moindres rides, des serviettes d'argent s'y déployaient, d'un bleu bordé d'orange, et ces plissements de la lumière plissaient la forêt immergée comme une étoffe souple. À part on ne sait quel glissement reptilien, rien ne décelait les hommes. Ils devaient être enfouis dans la fange, se guettant en une bizarre lutte d'immobilité. L'ultra-défiance de leur réciproque adresse et promptitude. Cependant, un petit nuage marqua le déplacement d'un corps. Alors un harpon hélicoïde flotta, traça un lacet, s'abattit, et je vis un cadavre monter vers moi. Je connus ainsi la position des camps adverses. L'éclair se tenait un peu en avant de mon radeau, les autres plus loin, adossés au massif. Au trait mortel qui venait de tuer un des nôtres, 20 traits répondirent, et je vis avec une sorte de joie féroce deux cadavres noirs montés vers la surface. Puis le guet reprit. Les nuages de bourbe se dissipèrent. Je pus revoir le plomb terni et l'or de la vase, les ombres irisées, les globules de vif argent, toute la cristallie tremblante du flot. Je compris alors que l'attaque était aussi dangereuse que la défense, et qu'il ne fallait pas négliger un instant de se couvrir. Mais comment cette tactique pourrait-elle se prolonger? La réflexion que j'en fis m'éclaira. Je perçus que les deux camps, avant de recourir à la bataille, se disputaient une position stratégique et que cette position allait dépendre de la capacité à rester sous l'eau. Ceux à qui faillirait la respiration se verraient obligés de remonter, de se découvrir. J'attendis avec anxiété cette minute critique, en tournant parfois les yeux vers le radeau de Sabine, arrêté, comme le mien, très loin. Le massif de roseaux épandait vers l'air, ouest et vers l'ouest, des éventails de rides fines, mais le champ du combat demeurait à l'abri, si bien que, mon regard plongeant aux frêles végétations, je vis venir parmi les plantes rameuses, parmi les larges feuilles, des milliers de reflets métalliques comme des louis d'or et des écus à la volée, puis la cristallerie du flot, les serviettes d'argent, les globules de mercure, touchant cela, vacilla, des bandes innombrables de poissons envahirent le champ de bataille, et je distinguais une musique lointaine à laquelle une autre musique bientôt répondit. Je pense que les sombres s'efforçaient de mettre ce rempart vivant entre eux et l'éclair, avec l'intention de respirer à son abri. Pour quelque motif, la vie des poissons semblait sacrée. Pacte, loi de guerre ou simple respect de la bête qui se donne volontairement et que la violence rendrait réfractaire. Et ce fut, dans le drame, un épisode saisissant, tout de grâce et de prodige. Aller voir évoluer, pointus ou discoïdes, avec leurs yeux aux bagues fines, leurs bouches rondes ouvertes, le jeu muet de leurs opercules, s'éparpillant et se rassemblant, bandes assombries de dos, grappes de clarté de flanc, tourbillonnant sous la voix mince des roseaux, filant droit comme des rayons de lune par les branches ou frémissant ainsi que les feuilles à la tempête, il semblait les notes visibles d'une orchestration prodigieuse où les yeux prenaient tous les plaisirs de rythme et d'harmonie de l'oreille. La lutte pour les maintenir ou les éloigner dura quelque temps. Mais un de nos hommes s'étant aventuré sur le radeau, le roseau à rainure à la main, dès qu'il se mit à jouer, les poissons montèrent vers la surface et s'éloignèrent. Les poissons disparus, le camp des Noirs marqua sa fatigue. Les quelques-uns qui avaient tenté de gagner la surface pendant la phase des poissons flottaient maintenant un trait dans le cœur. Trois autres s'élevèrent au mépris du danger et furent tués. Alors les harpons des noirs voguèrent par centaines comme des hirondelles en migration, et ils s'enfonçaient parmi les plantes, soulevaient en léger tourbillon la vase. Les nôtres ne bougeaient point. Seuls deux blessés montèrent, et avant que la riposte fût possible, les noirs élevèrent un épais rideau de tourbe derrière lequel ils vinrent à la surface pour respirer. Déjà les clercs traversaient ce rideau, prenaient position sous l'ennemi. Vaincus, leur munition épuisée, les Noirs se donnèrent à la fuite. Beaucoup y réussirent, mais un grand nombre furent tués, un grand nombre aussi retenus captifs. Je pressentis la poursuite inutile, l'arrière-garde des fuyards se séparant des poursuivants par d'immenses voiles de fange. Captifs et morts, acheminés sous bonne escorte vers les huttes, étaient partis depuis quelque temps, lorsque je vis émerger cinq ou six hommes clairs portant un enfant noir qu'ils déposèrent sur le radeau. On me fit signe de veiller sur lui, et comme je l'entendais pousser des gémissements, on me montra avec compassion son bras gauche. Je palpai ce bras. Il était luxé à l'articulation de l'épaule. Mais j'y fis peu attention, car le radeau de Sabine en ce moment disparaissait dans les brumes. Nous avions rejoint l'île. Notre troupe y prit du repos, mais sans aucune joie de la victoire, plutôt du dégoût et de la tristesse, accompagnée d'indignation subite, de grandes colères clapotantes. Pendant qu'il faisait cuire du poisson, je rôdais par l'île. Je la parcourus jusqu'aux deux tiers dans sa largeur. Il y croissait d'immenses graminées, et je me rappelle, à travers ma songerie, avoir remarqué une sorte de sillon où ces graminées se couchaient. Mais ce fut une de ces remarques qui ne pénètrent pas, qui reviennent seulement plus tard, comme les ébauches d'idées reviennent dans le sommeil. Quelques pas encore, le terrain s'effondrait dans un entonnoir hérissé de pierres dures, où s'ouvrait vers le fond un trou plein de vertiges et de nuit. Je me penchai sur ce sépulcre, y comparant mon âme vide et béante, et j'eus une hallucination. Il me sembla qu'une plainte venait de là, une plainte non comparable avec celle qui pouvait sortir du larynx d'un homme des eaux. Rien du clapotement humide, batracien si caractéristique, mais une voix toute terrestre, sèche et vibrante, telle qu'une voix d'Européen. « Sabine ! » m'écriai-je. « Mais étais-je fou ?» Sabine fuyait sur les eaux. J'écoutais pourtant. Je prêtais une oreille capable de percevoir le vol d'une phalène dans les bois. Et je n'entendais que la rumeur des choses mortes, celle qui gronde à toute caverne avec les craquements menus de la pierre, les obscurs déclics de l'horloge des choses. Alors, tout songeur, je revins au campement. La halte ne se prolongea guère, car dès que le poisson fut rôti, nous l'emportâmes. Eux s'en repurent sous l'eau, ainsi que je leur avais vu faire souvent, et moi je mangeais ma part sur le radeau. J'en avais affaire à mon compagnon de route. Il avait refusé. Dans cette angoisse où je vivais, sa souffrance m'avait d'abord laissé indifférent, mais ce refus de nourriture, sa soif continuelle, les plaintes qu'il exhalait attirèrent enfin mon attention. Déployant toute mon énergie, je parvins à remettre en état les surfaces articulaires de son bras. Tandis que je me penchais pour finir mon opération, une particularité m'attira. Sans le moindre doute, les yeux du blessé n'avaient pas, à beaucoup près, les caractéristiques des yeux des autres hommes des eaux. Le blanc s'y montrait très apparent et de forte courbure. L'iris, quoique penchant vers le rouge, n'avait pas une couleur précise. et plus d'un Européen possède des yeux semblables. Très surpris, j'examinai les autres parties de son corps. Je reconnus que ni pour la peau, ni pour les cheveux, ni pour l'affinement des extrémités, il n'était comparable à la gent aquatique parmi laquelle il vivait. À travers les soucis, les hypothèses et les conjectures, m'agitèrent irrésistiblement. Me trouvais-je devant une race mixte entre les hommes terrestres et les hommes des eaux? Ou bien, par quelque phénomène d'hérédité, celui-ci revenait-il à la souche terrestre? Fallait-il supposer que la transformation de l'homme terrestre en homme aquatique s'était faite si rapidement qu'il avait suffi de quelques siècles? Par bribes, des rappels de lecture m'apportaient des affirmations de vieux auteurs sur la faculté de certains êtres extraordinaires à vivre sous l'eau. L'expérience faite sur de jeunes chats aurait démontré qu'immergés dans leur naissance dans du lait tiède, ils y étaient restés vivre pendant des heures. Notre existence, tout aquatique avant la mise au jour, ne pourrait-elle, selon des accommodations graduées, demeurer amphibie? Les ravisseurs prenaient soin de multiplier les obstacles en troublant l'eau sur de vastes étendues, et mes compagnons n'arrivaient à tenir la piste que par une quête sagace. Qu'on se figure donc ma joie lorsque, vers 2 heures, la brume de l'horizon se déchira sous les efforts du soleil et que je revis le radeau de Sabine. Mon doigt, à partir de ce moment, pointa vers la tache mouvante et nous glissâmes avec une rapidité double. Nous gagnions visiblement. De quart d'heure en quart d'heure, le radeau de Sabine devenait plus distinct, et je jetai un cri de suprême allégresse en voyant se dessiner confusément sur le ciel une silhouette de femme. Mais l'angoisse mordit mon cœur à ce même moment. Le jeune chef, plutôt que de nous abandonner, Sabine, ne l'attirerait-il pas au fond du lac? Ah, qu'elle ne soit pas traînée dans les lourdes nappes de l'humide, son pauvre corps plus doux qu'un corps d'oiseau, son être aérien, sa beauté de créature, faite pour peupler les jardins fragiles de notre Occident. Encore plus près, l'adorable silhouette précise au point que je reconnaissais le petit mantelet aidé de Sabine. Je m'étais mis debout, mon cœur ne semblait pas dans ma poitrine, mais répandu dans l'espace. Je n'avais plus que l'impression du soleil sur le lac, de la brise douce, du cri de mes compagnons. Je sentais mon corps dans ces choses comme un arbre dans une forêt, tandis que toute mon âme se précipitait vers le radeau dont 500 mètres à peine nous séparaient. Et ces deux distances décroissaient continuellement. Or, debout sur mon radeau, entouré de fermes et beaux nageurs, dans le vent, dans l'étincellement du lac, les vagues où chavirait un monde de lueurs, le champ éperdu de mes hommes des eaux, c'était une chose vertigineuse. L'espoir et l'impatience se rencontraient dans ma poitrine comme des corps de cavalerie au nœud d'une bataille. Je voyais Sabine, mais elle ne pouvait me voir. Elle avait la tête tournée vers le large. Par quel artifice la contraignait-il? Mais pourquoi le regard adoré ne venait-il pas au mien? Vague préoccupation d'amant, puéril jusqu'au cœur d'un drame. Arrivés à 300 mètres, mes nageurs libres s'élancèrent dans la direction du radeau. À ce même moment, un homme se dressa à côté de Sabine. Le cœur étreint d'épouvante, je le vis saisir la jeune fille à bras-le-corps. Elle lui résistait, elle se débattait. Il s'efforçait de l'entraîner. Ah, j'ai gardé la trace de ces minutes sur mon organisme. Mon cœur, durant des années, en demeura affaibli, tremblant, et plusieurs mèches grises se mêlèrent à mes cheveux. La chose maudite s'accomplit sous mes yeux. Sabine fut précipitée dans les flots. La force du malheur déracina mon être. dans des voiles obscures, parmi la chute, semblait-il, de fragments immenses du monde, je me lançais dans le lac, lourd, allant, impuissant, comme un insecte dans la glu, je nageais vers ma bien-aimée. Mais je compris presque aussitôt l'inutilité de cet effort, l'inutilité de tout effort sur cette misérable terre, et cessant de lutter, je me laissais couler à fond. Chapitre 3. L'enfant des eaux. Je me réveillais sur le radeau. Il était immobile et je m'y trouvais seul. Mon compagnon, blessé, avait disparu. Je cherchais en vain mes nageurs. Le lac très pur vivait sous le soleil sa grande vie clapotante, partout emportant vers l'horizon ou apportant vers moi, selon la brise, des poissons rutilants, des reflets, des traînées lumineuses cernaient des plaques lourdes, luisantes et bossues, comme du verre à bouteille. Des cuirasses imbriquées de pangolins, des réseaux bleus bordés d'orange, alternaient avec de petits flots en cloches de cristal, avec des rides si minces et si pâles qu'on eût dit de biscuits de mer flottant avec des escaliers lumineux montant vers le soleil et des iris de soie posés à plat sur l'eau. Je m'occupais à ces choses dans une hébétude sinistre, le drame de tantôt relégué maintenant au double fond de mon être. Un temps interminable s'écoula, puis mon regard perçut la présence d'un homme dans le lac. Je le voyais confusément car il se trouvait à une grande profondeur. Il ne se déplaçait point avec l'ordinaire vitesse de ses congénères, mais plutôt avec une nage prudente et sans entrain. Il remonta. À son bras traînant, enveloppé de linge, je reconnus l'enfant capturé dans le massif des roseaux. Il tenait de sa main valide un objet brillant, mon couteau, qu'il était allé chercher au fond du lac. Je l'aidai à reprendre sa place auprès de moi. Mais tous ces mouvements avaient réveillé l'atroce souvenir, et le cœur torturé d'épouvantables certitudes, je tombais dans un désespoir sans mots. J'en sortis à une pression sur mon épaule. Le blessé se tenait debout avec une attitude impitoyée et une singulière insistance à me faire des signes de dénégation, accompagnée d'une mimique dont le sens m'échappait. Cela dura quelque temps, puis il parut se décourager et s'arrêta. Mais il gardait un air de réflexion inquiète. Enfin, d'un geste brusque, il saisit le couteau et détacha de nos planches 5 morceaux de bois. Une malice marqua sur son visage, tandis qu'il me donnait la curieuse petite représentation suivante. D'abord, tenant sur sa poitrine un des morceaux de bois, il lui prodigua les marques de la plus vive tendresse. Il m'obligea même à agir comme lui. Je me demandais quelle cérémonie fétichiste il m'enseignait ainsi. Le deuxième morceau de bois, il le posa sur l'eau, simulant une embarcation. Mais tandis que le premier morceau de bois était couché près de moi, le troisième accourait, s'en emparait, le portait sur le radeau. L'intérêt s'éveillait en moi, car il devenait clair que le pauvre enfant me racontait l'histoire de Sabine. Il vit mon attention et de nouveau son visage exprima la consolation et l'espérance, tandis qu'il poursuivait. Or, voici la chose émouvante à laquelle j'assistais. Le radeau emportait Sabine, puis il abordait à une île. Sabine descendait, conduite par le chef noir, et le quatrième morceau de bois prenait sur le radeau la place de Sabine. Une fulguration d'orage m'éclaira. L'enfant blessé riait et poursuivait son récit, suivi maintenant avec une plus frémissante palpitation qu'un drame de Shakespeare. Sabine et le chef restaient dans l'île. Le quatrième morceau de bois continuait sa route sur le radeau. Et voilà que le cinquième morceau de bois surgissait et se saisissait du quatrième, se précipitait avec lui dans le lac. L'enfant riait encore, et cette fois je comprenais bien son rire. Je comprenais ses consolations et son espérance. Sabine vivait. La pénétrante certitude filtra dans mon âme, plus douce que les rayons de l'aube parmi les rameaux de quelque autre forêt d'Afrique. Elle vivait, mais où ? Pouvais-je en tirer l'indication du génie à l'enfant ? Non seulement je le pus, mais avec des détails qui me surprirent. Nous avions trouvé une langue et chaque succès en appelant de nouveau. Bientôt, cette langue exprima des sensations fort délicates et même quelques idées abstraites élémentaires. Ainsi, je sus que Sabine s'était trouvée d'abord dans l'île proche du massif de Roseau, et l'enfant me dit, ou me j'aurais tout aussi bien deviné, qu'il existait par là une grotte où Sabine aurait été descendue. Ma prétendue hallucination se trouvait donc être une vérité, les plaintes sortant du trou de silence et de nuit provenaient bien de ma malheureuse fiancée. De cette grotte, elle avait dû être transportée dans le pays des hommes des eaux noires que l'enfant me montrait du doigt vers l'Occident. Chapitre 4. Le chenal. Décidé à rejoindre Sabine, je m'ingéniais à en trouver les moyens. Un des petits troncs d'arbres de notre plancher, je le façonnais en godille avec mon couteau, et l'exercice de cette espèce d'aviron m'étant familier depuis l'enfance, j'arrivais à parcourir 14 à 15 mètres à la minute. Certes, il faudrait ainsi bien des heures pour atteindre la rive invisible, mais l'action me coûtait moins que l'inaction. J'étais heureux de me prodiguer pour mon ami, et je sentais déjà en récompense de l'effort me venir l'espoir. Tout le reste du jour, ma godille tourna dans l'eau. Le soleil déclinait lorsque j'aperçus les premiers arbres et les premières collines de la rive. Dans la décision sur le choix de mon atterrage, j'éveillai l'enfant. Il me montra, à 1 kilomètre sur la droite, un point marqué par le moutonnement d'une grande forêt. Bientôt, nous trouvâmes l'entrée d'un vaste chenal, et sur l'ordre de l'enfant, j'y engageai le radeau. Les eaux étaient si lentes qu'elles semblaient plutôt sortir d'un lac que descendre d'une montagne. À droite et à gauche, sur les bords, en piliers colosses, des arbres jaillissaient du fleuve, formaient de gigantesques colonnades. Une impression de froid tombait des branches ouvertes comme de vastes mains. Le couchant se tenait au fond du chenal, et l'onde apportait dans ses plis quelques sanglantes clartés. On voyait sous l'eau le tronc des arbres à 15 pieds. Il errait de gros poissons aveugles, d'énormes crustacés verdis d'algues, et surtout des céphalopodes d'une espèce inconnue, aux yeux immenses. Tout dénonçait la vie de l'ombre, pâle, fiévreuse, la fécondité blême des bêtes et des plantes qui ont renoncé à la lumière. Des algues admirables tapissaient les endroits peu profonds, longues de plusieurs mètres, traînant leurs cheveux fauves dans le sens du courant. Des lichens largement ciselés s'étendaient en strates bizarres et partout pâturaient des insectes semblables à des tortues aux énormes boucliers ovales. Une araignée, grosse comme le poing, suspendue aux branches par un fil, plongeait pour saisir des proies molles. De grosses mouches blanches volaient sur des champignons livides. Ma godille dérangea un mammifère à bec d'ornithorynque et il voltait des nuées de chauves-souris. À mesure que nous avancions, l'ombre tombait davantage. Le chenal levait plus haut ses collines, ses arbres penchés, et j'avançais dans une grandiose horreur, dans une passion de ces terribles choses qui n'avaient de comparable que mon désir de revoir Sabine. L'enfant s'était rendormi. Les dernières draperies sanglantes se plissèrent sur le flot. Des ténèbres absolues voilèrent la route. Je me mis à l'avant du radeau et je pagayai qu'une bonne partie de la nuit dans l'obscurité. Chapitre 5. La forêt lumineuse. Je suppose qu'il était à environ minuit quand l'enfant se réveilla. Son épaule allait beaucoup mieux. Nous avions faim et il parvint à découvrir des noix comestibles. Après le repas, je m'endormis d'un léger sommeil. Quand je me réveillai, la lune devait être quelque part sur la gauche, car il venait de ce côté une lueur spectrale à travers les bois. C'étaient de vagues images de mousseline, un flottement nébuleux de blancheur, comme un grésil sur la forêt. Parmi la colonnade, il régnait une ombre de cave, éclairée seulement de quelques dos phosphoreux de poissons. Je me remis à la pagaille. À cause des précautions, j'avançais avec une lenteur extraordinaire, si bien qu'en 3 heures, je ne fis pas 2 kilomètres. Une sorte de falaise obscure se dressait alors devant moi, tandis que sur la gauche venait une singulière éclaircie. Et vraiment, était-ce déjà le soleil? L'aube filtrait-elle maintenant à travers la forêt? Je dirigeais le radeau vers la clarté. 10 minutes suffirent pour tourner le coude, et un vaste paysage, plus brillant qu'un paysage de neige sous la lune, apparut. Pourtant, ni la lune ni le soleil n'éclairaient. Une luminosité errante aux larges moires reposait sur le fleuve, étendu maintenant aux proportions d'un lac. Les eaux, qui se perdaient très lointain dans une forêt inondée, étaient basses, car on voyait les premières bifurcations des racines des arbres. De ces racines partit la lumière en cercle dense qui allait se dégradant. Mais elle était sans ombre, comme une nappe colosse de flammes rares, et partout la lueur se mouvait, ondulait, s'éteignait, s'avivait, se plissait. Elle coulait des buissons en cascatelles rutilantes, s'éparpillait en guettes de clarté à la brise, et aux places rares où l'eau pouvait la réfléchir oscillait largement. Un vaste, stupéfiant silence régnait. Je restais immobile au seuil de cette féerie. Ma plus lointaine enfance guidait tous mes actes. J'avais, de cet âge, la naïve admiration et la mystérieuse terreur, l'invisible curiosité et l'horripilation de l'occulte. Je me crus à quelque ville de légende où les hommes des eaux auraient trouvé moyen d'éclairer le dessous du lac. Je me figurais cette humanité nouvelle, inaccessible à ma faiblesse. J'eus, moi, le représentant des races supérieures, l'impression peureuse, mélancolique, résignée des races vaincues. D'innombrables choses croulèrent en moi qui n'y étaient que par la certitude d'appartenir à la plus haute humanité. Je compris le glissement à l'abîme de mes pauvres rivaux. La vie réfugiée aux rêves, aux théories confuses, aux consolations du nirvana. Cependant, le phénomène se compliqua de la présence d'un être. C'était tout là-bas, sur un îlot, un homme dont la silhouette se mouvait sur le fond de lumière. Cette silhouette géante atteignait aux premières branches d'un frêne, à 3 mètres du sol. Elle était très mince et je vis bientôt que toute sa hauteur tenait dans ses jambes. 3, 4 autres semblables parurent sur l'îlot, puis ils entrèrent dans l'eau qui leur venait à la ceinture. D'un pas rapide, ils se dirigeaient vers nous et j'éveillais mon compagnon. Effaré, ébloui de la trop vive lueur, il porta la main à ses yeux pour mieux voir, et rien dans l'exclamation qu'il poussa n'exprimait la surprise ni la frayeur. Cependant, les hommes approchaient. Selon la profondeur, on voyait émerger leurs bustes plus ou moins. Parfois même leurs jambes ne plongeaient pas, et j'eus le temps de reconnaître que ces jambes excessivement grêles correspondaient à des bras d'une longueur démesurée, secs et minces comme des lianes et recouvertes d'écailles jaunâtres sans traces de poils. Le tronc était au contraire velu et blanc. La poitrine exiguë, la tête petite, aux grands yeux froids, dans une expressive mobilité. L'enfant semblait prendre plaisir à leur présence, un plaisir mêlé de raillerie. De loin, il leur parla. J'écoutais avidement leurs réponses. Il n'avait pas la voix batracienne, l'accent humide, le clapotement des lèvres de mes hommes des eaux. Mais au contraire, le son sourdait en basse-taille de leur poitrine, et ils articulaient dur, coupant les syllabes d'un martèlement continu des mâchoires. Graves, ils entouraient notre radeau. Tout leur être donnait l'impression d'une race triste, confinée à des territoires ingrats. Dans la demi-clarté, ils apparaissaient d'un blanc de vie souterraine, leurs cheveux pâles, couleur de cendre, les poils de leur poitrine moins foncés que ceux du dos. Je ne sais pourquoi leur présence m'apitoya. Peut-être l'attitude protectrice de l'enfant, peut-être un instinct qui me montra dans ces gens à la tête étroite des parias. Je me les figurais comme ayant raté leur métamorphose, rejetés par de puissantes nations mongoles dans ces contrées palustres, inaccessibles au reste des hommes, ils avaient dû vivre de prudence et de réserve. L'effort permanent de trouver leur nourriture dans les marais et les étangs avait, à travers les siècles, allongé leurs membres. Puis de nouvelles peuplades de même origine étant survenues, soit qu'une impulsion plus ferme les eût portées jusqu'au Grand Lac, soit que le temps eût amélioré la région, ces derniers venus avaient pu choisir une adaptation audacieuse et souveraine, se faire amphibie, laissant loin derrière eux les tristes précurseurs réduits à la fréquentation des eaux sous-forestières et peu profondes. Je compris que l'enfant les priait de pousser le radeau, et ce semblait plutôt un ordre qu'une prière. Bêtes et doux, ils obéirent avec mélancolie, et je pense avec le sentiment de leur faiblesse. Notre radeau glissa à travers la forêt lumineuse. Le rêve baignait cette scène de rêve. Les remous de notre passage faisaient au loin des strates radieuses comme font les reflets des belles nacres. Mais à l'endroit où nous passions, c'était la déchirure d'une étoffe d'argent, laissant derrière elle un sillage sombre, tandis qu'à droite et à gauche, des condensations de lueurs se traçaient dans longs replis. J'examinais les eaux avec attention. J'y plongeai la main que je retirai flamboyante, et je reconnus de petites cellules végétales où mes études postérieures me permirent de reconnaître des zoospores d'algues, animés probablement à l'époque de la reproduction d'un mouvement semblable à celui des têtards, et de plus phosphorescent. Après des heures de course, le chenal commença de se rétrécir, et bientôt l'eau monta jusqu'à la gorge de nos pauvres échassiers haletants. Ils nagèrent quelques minutes, puis, rendus, ils abandonnèrent le radeau et gagnèrent la rive. Nous étions juste au seuil des ténèbres, car la nappe de zoospores ne s'étendait pas dans le chenal rétréci. Je criai des remerciements à mes aides. L'enfant aussi leur envoya des paroles cordiales. Ils y répondirent par le martèlement confus de leur lourde voix et se mirent en marche sur la rive. À mesure qu'ils s'éloignaient, mon intérêt pour eux allait croissant. Rien de plus humble, de plus pitoyable que leur triste squelette, soit qu'ils le pliassent comme de bizarres marsupiaux, ou que debout ils eussent la mélancolie des êtres trop frêles et trop longs. La dernière fois que je les vis, ils trottaient sous les branches, et leur théorie de mortelle pâleur semblait mue comme les pattes de faucheux coupées par une désolation mystérieuse. Je m'étais remise à pagayer. L'eau devenait plus sombre, les arbres plus rares. Je fis un peu le chemin dans les ténèbres. L'enfant s'était, je pense, rendormi. Toutes mes sensations furent alors des sensations de rêve. Il me paraissait qu'un trou noir aspirait le radeau, que j'allais sombrer à quelque abîme, que jamais je ne retrouverais la douce sensation de mes lèvres sur la chevelure de ma bien-aimée. Mon courage faiblissait. Je me rappelais cependant des minutes presque aussi âpres, endurées avec patience au cours de notre voyage. Mais alors, il y avait l'énergie de Devreuse, la présence de Sabine, des compagnons européens, et surtout les périls étaient prévus, la lutte entreprise contre des forces cataloguées. Maintenant, la solitude, l'embûche, des hommes infiniment puissants, infiniment différents de nous, et ces ténèbres, cette forêt interminable, cette crainte avec mon cœur affaibli de quelque nouvelle aventure prodigieuse où il me semblait qu'aurait défailli ma raison. Ma pagaie ne battait plus le flot que le coup espacé inefficace. Le vertige de l'ombre tremblait devant mes yeux. Il vint des périodes où je ne savais exactement si je pagayais encore, si je m'étais arrêté. D'autres, où je me croyais tantôt errant par des ruelles urbaines, tantôt assis au haut d'un phare, et alors je me secouais pour retrouver la rivière, la nuit, le radeau. Je murmurais des paroles sans accord avec l'heure et l'endroit. Enfin, je sentis que je tombais décidément dans l'inconscience, et je me souviens que mon dernier effort fut pour me reprocher la dérive probable du radeau et pour apercevoir l'aube telle qu'un trou clair dans le chenal. Chapitre 6 Sous l'orage. Quand je me réveillais, le radeau marchait d'une bonne vitesse. Nous avions franchi le chenal, nous nous trouvions en plein lac. Il faisait terriblement chaud. Des nuées immenses cachaient et découvraient tour à tour le soleil. Je cherchais des yeux l'enfant. Je le vis à l'arrière, immergé, poussant le radeau de son bras valide. Il me sourit, me montra vers le nord un pays de collines caverneuses. Est-ce là? Dis-je. Son geste fit oui, et il pressa sa main sur sa poitrine, ce qui dans notre langage signifiait Sabine. Sabine. J'invitai l'enfant au repos. Il s'y refusa. Alors je pris la godille et je ramai. Les gouttes d'une large sueur me baignaient. Des nues basses venait une pesante électricité. Les flots, sans trop de brise, houlaient, courts et actifs. À notre droite, la sombre toison de la forêt s'embrumait de plus en plus, et par un défilé, plus loin que les collines caverneuses, dans une sorte de désert, des tourbillons de sable cachaient tout le ciel. J'éprouvais l'angoisse qu'on éprouve dans ces crises, et aussi je ne sais quelle émulation, quelle rivalité de l'homme contre les éléments. L'enfant poussait activement, je maniais la godille avec raideur, et nos efforts combinés nous approchaient de la côte. Nous n'en étions plus qu'à 100 mètres lorsque la tempête éclata. Sa fureur insensée couvrit instantanément le lac de vagues effroyables. Une trombe me souleva, m'engloutit, me ramena à la surface, et les fouets humides de la pluie me flagellaient, m'aveuglaient. D'ailleurs, tout le paysage avait disparu dans la grisaille. Je me tenais convulsivement accroché aux poutres de petits radeaux dont les liens cédaient. Oh, je pressentais le moment où je serais laissé sans appui. L'enfant avait disparu. J'estime qu'à 2 ou 3 mètres sous l'eau, il se riait de l'ouragan et me surveillait. Et comment en aurait-il été autrement, puisqu'un dernier effort, le coup de queue de la trombe, ayant définitivement disloqué mon radeau, moi-même projeté loin de tout appui, je fus saisi et emporté vers la rive. L'enfant montra de la crainte au premier coup de tonnerre. Ses coups, d'abord étouffés sous les basses nues irrégulières, bientôt eurent un fracas épouvantable quand la voûte fut plus haute et plus homogène. Les éclairs mordaient l'eau d'un zigzag bref où s'allumaient doux et larges comme des lunes électriques. Les vagues, visiblement, s'élançaient vers le ciel, tandis que des nues descendaient, lentes d'abord, capricieuses, mais bientôt tout le lac se couvrit de flammes et de vacarme. La terreur de l'enfant me réveilla. Je lui fis signe de s'abriter au fond du lac et que je l'attendrais. Il accepta, bondit, disparut sous l'énorme agitation. Resté seul, je bravai orgueilleusement la foudre. L'intarissable torrent coulait sur moi comme un ruisseau sur la montagne. J'ôtai tout le superflu de mes vêtements et, nu jusqu'à mi-corps, j'entrepris d'explorer les environs. On n'y voyait pas à 5 mètres dès que le ciel restait sans éclair. Mais c'était rare. Le lac et le ciel, luttant de tensions électriques, peuplaient l'espace de reptiles phosphoreux. 2 fois le choc me renversa. 2 fois je me relevai avec un ricanement. Je me sentais, au fond du malheur, dans la volupté noire des désespérés. L'orage, ses menaces, son tumulte infernal, sa pluie sur moi, comme d'insultantes lanières, me donnait l'âme de quelque fanatique hindou, de quelque saint martyr de la primitive église. Par les fumées d'un sol humide et surchauffé, à travers les grilles nettes de la pluie, j'entrevoyais les cavernes, je m'en approchais peu à peu. À 50 pas, sous un magnifique éclair, je tombai tout du long sur le sol, mais ce ne fut pas du choc électrique. Ce fut de voir Sabine au seuil d'une des cavernes. Elle se tenait assise sur une grosse pierre et regardait l'orage. Personne n'était auprès d'elle. Je ne me relevais pas, je rampais doucement, et à mesure je m'apercevais qu'elle était bien seule. Comme elle fermait les yeux à chaque éclair, elle ne me vit pas. Toujours en rampant, je me demandais s'il fallait entrer dans la caverne. Des hommes des eaux ne s'y cachaient-ils pas? Puis, une certitude brusque, ainsi que mon compagnon de voyage, les ravisseurs de Sabine, par frayeur du tonnerre, s'étaient mis à l'eau. Alors, surpris que Sabine ne songeât point à s'évader, je m'aperçus qu'elle avait les pieds et les mains liés. Ma joie fut si prodigieuse que je restai bien 2 minutes haletant parmi le déchaînement des horreurs. Enfin, je pus bondir, me trouver éperdu aux pieds de ma fiancée. Elle me reconnut. Elle eut vers moi un geste d'élan, mais sa faiblesse l'emporta, et je reçus sur ma poitrine sa tête évanouie de bonheur. Elle renaquit sous mes baisers. Rien qu'à voir ses 2 yeux bleus, sa bouche pure, la grâce de son front, je suis sûr qu'elle avait échappé à tout outrage, et mon cœur d'amant fut large à tenir le monde. Sabine délivrée, nous partîmes dans la pluie. Tout me parut bien dans l'univers, et les éclats terrifiants de la foudre sur nos têtes étaient des éclats de victoire et d'allégresse. Sabine, son doux visage ruisselant de pluie, souriait vers moi. Elle réfugiait contre mon corps, son doux corps de bien-aimé, dans un frisson de fièvre exquise. Son capuchon imperméable protégeait sa tête et sa poitrine. Mais je me souviens qu'une fois, elle s'accrocha à mes épaules, qu'elle m'embrassa étroitement et que ce capuchon tomba en arrière. La toison blonde de ses cheveux me noya le cœur de délices. Oh, toute ma vie, j'aurais devant les yeux sa tête charmante, sa nuque délicate, la jeunesse sacrée de sa chair sous l'intarissable averse. Je la pressais sur moi, délirant, et au milieu d'un éclat de tonnerre qui fit trembler le sol, je lui rendis ses caresses. Déjà, elle se reprenait avec douceur. Elle couvrait en souriant sa tête mouillée, et elle m'entraînait. Je tins sa petite main nerveuse comme un exquis enfant tient un oiseau, et nous courûmes jusqu'à l'endroit signalé par mes vêtements. L'enfant émergea, sortit de l'eau, et quoiqu'il manifesta une extrême frayeur à chaque éclair, cependant il vint jusqu'à nous. Sabine, qu'il avait pris d'abord pour un de nos alliés, s'apercevant qu'il était noir, en consultant de crainte que j'eus peine à la rassurer. Le temps pressait. Le plus grand obstacle à notre fuite était la terreur de l'enfant au coup de tonnerre. Cependant, comme il parvint à se vaincre assez pour nous accompagner, je dus plutôt me féliciter de cette circonstance, car elle me garantissait de toute poursuite pendant la durée de l'orage. D'ailleurs, je m'aperçus que l'enfant se rassurait infiniment dès qu'il tenait ma main, et j'eus alors l'intuition que son malaise pourrait bien être plus physique que moral, le contact de ma main apaisant les véritables ondulations électriques dont il était secoué. Pour quelque raison qui m'échappait, son corps conduisait mieux que le nôtre le fluide, ou du moins partageait plus nerveusement l'état de l'atmosphère. Mais cette même raison de conductibilité et de nervosité l'apaisait à mon contact, si bien qu'il put nous diriger. Nous l'accompagnâmes en silence pendant une demi-heure. Alors ma surprise fut extrême de le voir nous engager dans une caverne, ou plutôt dans une grotte spacieuse. « Mais où donc nous mènes-tu » m'écriai-je. L'enfant regarda Sabine comme pour l'engager à parler. « Mais vous n'êtes donc pas venu ici par une grotte ?» demanda la jeune fille, s'adressant à moi. « Non, dis-je, nous sommes venus par une espèce de rivière. »« Moi, dit-elle, j'ai été menée par des souterrains immenses. Pouvons-nous risquer une pareille aventure, chère Sabine ?» Et m'adressant à l'enfant, j'indiquai que nous désirions un autre chemin. Il marqua que c'était impossible, qu'il fallait s'engager dans la grotte. Mais il prit un air d'assurance comme pour une route déjà parcourue. Moi, je tremblais en regardant Sabine. Elle s'en aperçut. « Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, fit-elle, tout n'est-il pas préférable au risque d'être repris ?» Elle me donna la main, l'enfant prit la mienne, et nous nous enfonçâmes dans les ténèbres.